Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Aujourd'hui, un chiffre dur, un chiffre macabre, mais qu'il faut entendre, savoir, écouter pour se remémorer. En Libye, cette ville de Tarouna, qui a été tenue pendant plusieurs années par le clan Al-Kani, il y a eu des massacres conséquents, massifs, qui ont été faits à l'encontre de la population civile. Et ce sont pas moins de 340 dépouilles qui ont été exhumées de fosses collectives, puisque les exécutions qui étaient faites de personnes résidant dans la ville de Tarouna, ces exécutions étaient organisées par les hommes du clan Al-Kani. Ce sont des hommes qui aujourd'hui ont cessé de nuire, la ville a été libérée, mais il y a toujours ce travail de mémoire qui est fait, une mémoire aussi qui s'accompagne d'une restauration de ces corps qui sont rendus aux familles de ceux qui ont perdu un frère, un ami, une mère, une sœur, un enfant, puisque le massacre était absolument indistinct et ce sont tous les habitants de la ville de Tarouna qui ont été victimes de ce clan Al-Kani qui incarne à lui seul ce que furent les années les plus difficiles, les plus cruelles de ce conflit de guerre civile en Libye. 340 dépouilles. Il est certain que cette ville de Al-Tarouna deviendra à terme, après les élections de la fin de l'année, on souhaite qu'elle se tienne, cette ville de Tarouna deviendra certainement un lieu emblématique de ce que le peuple libyen a souffert durant ces années de guerre civile. En Libye toujours, on vient d'apprendre que les gardes-côtes libyens ont secouru une centaine de migrants illégaux. C'était des Africains, ils se trouvaient à bord d'embarcations en bois et en caoutchouc. Ils se dirigeaient vers les côtes européennes. Il y a depuis quelques mois une présence accrue des autorités de Tripoli sur cette problématique des migrants, à la fois des migrants qui sont libérés de leurs passeurs, de leurs trafiquants, ceux qui gagnent de l'argent sur leur dos et qui les cantonnent dans des lieux qui sont insalubres. Parfois ils sont frappés, parfois ils sont menacés, mais ils acceptent tout avant de prendre le bateau et essayer de rejoindre l'Europe. Donc à la fois il y a des opérations qui sont des opérations humaines, des opérations de sauvetage de migrants qui sont séquestrés par des trafiquants d'êtres humains, puis aussi il y a des gens qui sont en train de se noyer au large des côtes libyennes et ceux-ci sont sauvés par des gardes-côtes. Nous restons quelques instants en Libye avec cette déclaration africaine qui est importante. C'est une déclaration du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui déclare que la présence de mercenaires étrangers en Libye est une menace à la fois pour le territoire national libyen, mais ainsi que pour les États voisins. C'est important qu'on ait cette déclaration de l'Union africaine parce que l'Union africaine englobe par définition l'ensemble des pays de la sous-région et notamment les pays qui sont pourvoyeurs de mercenaires qui vont tenter le voyage. Alors, ce ne sont pas les États, ce sont des initiatives individuelles, mais il y a l'appel de l'argent, il y a les passeurs, il y a toutes ces filières qui permettent à la fois de remonter des hommes, mais aussi de faire venir des financements, des armes. Et c'est contre cela que l'Union africaine se dresse pour dire non, c'est à la fois un problème libyen, mais c'est vrai que c'est de facto un problème pour un pays comme le Tchad, comme le Soudan du Sud ou toute autre nation qui a des hommes qui sont sur place et qui vont vendre leur chair, leur sang pour essayer, bon, c'est vrai, de trouver quelques sous à la fin du mois, essayer de faire vivre leur famille, mais ce n'est pas une raison non plus pour aller faire la guerre sous d'autres uniformes dans d'autres pays. Et c'est donc tout le sens de la déclaration de Moussa Faki. Ce sera une grève, c'est ce qu'a décidé le Conseil national autonome des professeurs algériens de l'enseignement secondaire et technique. À partir du mois de novembre, il va y avoir, tous secteurs confondus, une immense grève, une grève cyclique, à savoir 2 jours par semaine. C'est ce qui a été décidé pour ne pas trop pénaliser des enfants et puis aussi pour les enseignants de gagner un petit peu d'argent pour essayer de vivre, de tenir. C'est tout le sens de cette annonce qui est faite de cette grève, à savoir le maintien du pouvoir d'achat, puisque compte tenu de la cherté de la vie, de la raréfaction de certains produits dans la vie quotidienne, il est très difficile pour les professeurs de joindre les deux bouts à la fin du mois. Et puis aussi, il y a des problèmes de financement, c'est-à-dire qu'il y a des arriérés qui n'ont pas été honorés par l'État algérien depuis 2018, des heures supplémentaires ou des promotions qui n'ont pas été respectées, ce qui fait que les gens n'ont pas été augmentés comme ils auraient dû l'être. Ça aussi, c'est quelque chose que le syndicat réclame, que l'État algérien respecte sa parole et qu'il verse l'argent qui est dû aux gens qui font un travail déterminé. Il se poursuit en Mauritanie ce dialogue national qui a été initié par les autorités à Nouakchott. Alors les partis politiques se déclarent favorables au fur et à mesure. Et là récemment, c'est la CVE, une alliance de partis de l'opposition, qui a annoncé sa volonté donc de participer au prochain dialogue politique qui sera organisé avec les autorités de Nouakchott. Donc l'idée, c'est simplement de se rencontrer, de se parler, d'échanger, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce sur quoi on peut travailler. C'est tout de la dynamique qui est souhaitée par la CVE pour participer donc à ce travail qui, à terme, doit aboutir à une meilleure gouvernance des affaires de la vie quotidienne en Mauritanie, ainsi que procéder et participer au développement économique et aussi à l'équilibre social du pays. Cela fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu de bombes qui explosent sur une bordure de route, touchant un convoi de la coalition dirigée par les États-Unis pour lutter contre le groupe État islamique. On est toujours sur la même région, on est toujours sur le gouvernorat méridional de Dirkar. Cela s'est passé ces dernières heures. Donc une bombe a explosé sur un convoi de ravitaillement. Les forces américaines sont toujours sur place. Il n'y a pas eu de victimes. Et on se demande si cette nouvelle attaque est l'annonce d'une série comme il y avait eu au début du mois de septembre. Il y a eu beaucoup d'attaques à l'encontre de ces convois qui ravitaillent les bases militaires qui sont toujours présentes en Irak. Et puis l'Irak aussi, c'est l'actualité politique avec ces mouvements politiques qui sont nés de la vague des contestations de 2019, 2020, 2021, et c'est notamment le mouvement Tichrine qui a eu la chance d'avoir des députés à l'occasion des dernières élections législatives anticipées. Maintenant, on apprend que certains de ces militants ont été arrêtés dans le gouvernorat, toujours d'ailleurs de Dirkar, et on se demande pourquoi ceux-ci ont été arrêtés. On se pose beaucoup de questions quant au devenir politique de ces jeunes qui incarnent aujourd'hui le renouveau en Irak. Ils veulent être porteurs de nouvelles paroles, de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. C'est vrai que le fait que des partisans soient arrêtés au sein même d'un gouvernorat, cela interroge, cela pose question. En tout cas, le mouvement Tichrine pour l'instant est toujours partie prenante au Parlement irakien avec 70 sièges. Guerre civile en Syrie. Nous allons en Syrie aujourd'hui avec cette émotion provoquée par un tweet du patron du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, Filippo Grandi, qui était à Damas et qui a rencontré les plus hautes autorités du pays et qui ont appelé à un retour des réfugiés. C'est une rencontre qui a eu lieu quelques heures avant l'ouverture à Genève du comité constitutionnel syrien qui travaille actuellement toute cette semaine sur l'élaboration d'un nouveau texte constitutionnel qui pourrait, espère-t-on, ramener la paix dans le pays. Alors le fait que Filippo Grandi appelle à un retour des réfugiés en Syrie, cela a quelque peu ému nombre d'acteurs de ce dossier, puisqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, les réfugiés syriens qui rentrent au pays connaissent une vie extrêmement difficile. Il peut y avoir des arrestations aux frontières. Il y a des sources sécuritaires libanaises qui en ont attesté. Ces sources sécuritaires ont même fait état de torture. C'est-à-dire qu'il y a des réfugiés qui étaient au Liban, qui décident de rentrer chez eux. Ils sont arrêtés à la frontière. On leur demande pourquoi ils étaient réfugiés, pourquoi ils n'ont pas soutenu Bachar al-Assad, pourquoi ils ont pris les armes pour certains. Ils sont donc arrêtés, torturés. Certains disparaissent, d'autres sont rendus à la vie civile avec toutes les complications qui peuvent s'imposer, à la fois la vie qui est très très difficile. Par exemple, aujourd'hui en Syrie, On a une crise du pain qui est si grave que vous avez même des gens qui habitent en région contrôlée par le gouvernement qui vont chercher refuge dans les zones tenues par les rebelles. C'est dire si la crise est grave. Et puis également des questions qui sont tout à fait pratiques sur l'accès aux appartements, aux maisons que les gens ont abandonnées. Souvent, celles-ci sont occupées. Elles ont été soit détruites ou elles sont occupées par des chefs de milices armées. Elles ont été volées, elles ont été revendues, elles ont été détruites, elles ont été pillées. Et il y a ce climat politique tout à fait instable, avec toujours des combats, des accrochages sur des rats. On sait qu'il y a une opération au nord du pays. L'armée syrienne est en train de se déployer parce que l'on a entendu parler d'une hypothétique attaque de l'armée turque au nord du pays. Donc en fait, il y a toujours la guerre aujourd'hui en Syrie et la situation ne semble pas mûre pour rappeler aujourd'hui les réfugiés à rentrer chez eux, même s'il est important de travailler sur ce dossier des réfugiés. Et en cela, le HCR fait un travail qui est tout à fait essentiel, parce qu'en plus, le HCR, lui, a accès aux zones. Mais il faut raison garder entre, d'une part, ce que serait l'appel à un mouvement général de retour des réfugiés. La situation est actuellement non propice. Mais en revanche, travailler sur le dossier des réfugiés aujourd'hui, oui, c'est tout à fait essentiel. Mais le fait est, c'est que il est évident qu'aujourd'hui, un grand retour massif est totalement illusoire dans la Syrie telle que nous la connaissons à ce jour. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.